Bonsoir et soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI, 20h30 ici à Paris et à N'Djamena, 19h30 en temps universel et à Conakry.
Afrique Soir sur RFI, Sylvie Berruet.
À la une de cette édition, la visite d'État d'Emmanuel Macron au Maroc. Le président français accueilli en grande pompe par le roi Mohamed VI. Une visite de 3 jours qui scelle la réconciliation après des années de brouille. 3 jours de deuil national décrété au Tchad après l'attaque d'une base militaire par les djihadistes de Boko Haram hier soir. Une 40aine de militaires tchadiens ont été tués et l'armée annonce avoir lancé une contre-offensive. Au Niger, plus de 4 millions d'élèves ont pu reprendre le chemin de l'école aujourd'hui. La rentrée scolaire avait été repoussée en raison de graves inondations. Et puis au Mali, plusieurs responsables politiques en prison depuis 4 mois seront fixés sur leur sort. Demain, la cour d'appel de Bamako se prononcera sur leur remise en liberté ou leur maintien en détention. Mais d'abord, allons au théâtre du Châtelet à Paris pour la 68e cérémonie du Ballon d'Or. Sophia Namazian, on vous retrouve et la question est sur toutes les lèvres. Qui pour succéder à l'Argentin Léo Messi dans la catégorie masculine ?
Rebonsoir Sylvie, alors je vais pas pouvoir trahir le secret parce que je ne le connais pas, je ne sais pas qui sera couronné 68e Ballon d'Or France Football. Sachez tout de même que le Ballon d'Or était promis, on va dire entre guillemets, au Real Madrid. On s'attendait à un duel entre deux coéquipiers, le Brésilien Vinicius Junior et l'Anglais Jude Bellingham. Pourquoi le Real Madrid ? Eh bien parce que les Merengues ont remporté la saison dernière la Ligue des Champions, ils ont également remporté le championnat espagnol. Oui, mais voilà, un autre nom, Sylvie, s'est invité au bal des rumeurs tout au long de cette journée de lundi. Son nom, c'est Rodri. Il s'agit du milieu de terrain espagnol de Manchester City. Rodri, c'est un régulateur, c'est un peu un joueur de l'ombre qui détonne par rapport aux joueurs offensifs que sont Vinicius et Bellingham au Real Madrid. Rodri, lui, a remporté le championnat d'Angleterre avec Manchester City. Il a remporté l'Euro avec la sélection espagnole et c'est lui qui, pour l'instant, tient la corde pour être couronné. Sachez que les Merengues, lorsqu'ils ont appris ça, eh bien, depuis maintenant, ils sont énervés, ils sont très vexés. Résultat, ils n'ont pas fait le déplacement ici au Théâtre du Châtelet. Une annulation à la toute dernière minute. Pourtant, je peux vous le dire, ça c'est mathématique, il y aura 5 joueurs du Real Madrid dans le top 10. Côté féminin, tout de même, moins de suspense. Ça devrait être normalement la milieu de terrain espagnole Aitana Bonmatí, la joueuse du Barça qui est favorite à sa propre succession. Alors peut-être un doublé espagnol, ça on le saura Sylvie aux alentours de 21h30 TU.
Merci beaucoup Sofiane Namazian, direct du Théâtre du Châtelet à Paris. Tapis rouge, cavalerie et 21 coups de canon à Rabat. Emmanuel Macron a été accueilli en grande pompe par le roi Mohamed VI. À son arrivée au Maroc, c'est la visite de la réconciliation après la reconnaissance officielle par la France du plan marocain pour le Sahara occidental. Et cette visite d'État de 3 jours devrait permettre de sceller de juteux contrats. Mathias Reynal.
Alstom, Airbus, Engie, des champions de l'industrie française font partie de la délégation, des entreprises qui espèrent profiter du réchauffement des relations diplomatiques et de cette période de grands investissements qui s'ouvre pour le Maroc. Le Royaume doit en effet accueillir de grands événements internationaux dans un futur proche, la Cannes 2025, la Coupe du Monde 2030. La compagnie nationale, la Royal Air Maroc, prévoit ainsi d'acheter des avions pour agrandir sa flotte et pourrait se tourner vers Airbus, qui souhaite aussi vendre des hélicoptères de transport tactique Caracal. Dans le domaine militaire, justement, la visite du président français au Maroc a également relancé les ambitions de Naval Group. Le constructeur souhaiterait conclure un accord pour la vente de 2 sous-marins et la construction d'une sous-marinade. Dans le secteur ferroviaire, Alstom est en lice avec d'autres multinationales pour décrocher le marché portant sur la fourniture de 168 trains, un contrat à 1,5 milliard d'euros. Il faut noter que le froid entre Paris et Rabat n'avait pas mis fin aux relations économiques. Loin de là, les échanges commerciaux entre la France et le Maroc ont atteint le record de 14 milliards d'euros l'an passé. Mathias Reynal, Casablanca, RFI.
Et à l'occasion de cette visite du président français, le fils de l'opposant marocain Mehdi Ben Barka demande dans une lettre à Mohamed VI et à Emmanuel Macron de prendre les décisions nécessaires, je cite, pour élucider la disparition de son père en 1965 à Paris. Figure du mouvement anticolonialiste, Mehdi Ben Barka a été enlevé à Paris le 29 octobre 65. L'affaire n'a jamais été totalement élucidée et son corps jamais retrouvé. 3 jours de deuil national décrété au Tchad après une attaque d'envergure subie par l'armée tchadienne. des djihadistes de Boko Haram ont ciblé hier soir une base avancée dans la région du lac au sud-ouest du pays. Au moins une quarantaine de soldats tchadiens ont été tués et le président tchadien s'est rendu sur place ce matin. Esra Zikomana.
L'attaque djihadiste a débuté aux environs de 22h locales et a visé la base avancée de l'armée tchadienne située sur l'île de Barkaram, tout près de la frontière du Nigeria. Les plus de 200 militaires qui constituaient la garnison de cette base n'ont pas réussi à contenir les assaillants, très nombreux selon des sources locales. Le bilan est très lourd, au moins 40 soldats tués selon la présidence tchadienne, alors que des sources locales parlent d'une soixantaine de soldats qui ont perdu la vie et des dizaines de blessés. Les assaillants ont occupé la base jusqu'à l'aube et sont repartis en emportant avec eux un lot important d'armes et de munitions après avoir incendié le camp militaire selon toujours les mêmes sources. Signe de la gravité de cette attaque, le président Mahamat Idriss Déby Itno s'est rendu sur place tôt ce matin et a tout de suite lancé l'opération baptisée Haskanit de traque des assaillants, précise le communiqué de la présidence. Elle se vient quelques semaines à peine après la fin de l'opération Lexaniti, rendre sain le lac en français de la force multinationale mixte dans la région, une opération d'envergure qui n'a pas eu apparemment l'effet escompté, puisque les djihadistes de Boko Haram ont continué d'écumer cette zone marécageuse qu'ils connaissent comme leur poche en attaquant et en pillant agriculteurs et pêcheurs de la région, selon des témoignages sur place.
Au Togo, une nouvelle incursion de bandes armées dans le nord du pays dimanche. C'est ce qu'on a appris de plusieurs sources dans la préfecture de Penjal Ouest. Des groupes armés sont arrivés dans la localité de Obanga dans la nuit. Ils ont incendié des boutiques et sommé les villageois de quitter leur village avant de disparaître dans la nature. Les attaques se sont multipliées dans la localité. Il y a moins d'une semaine, elles avaient froidement tué ces bandes armées, 8 civils, dans une concession à Malbangou, dans la même préfecture. Au Mali, c'est demain que la cour d'appel de Bamako doit se prononcer sur la remise en liberté de 11 opposants, membres de la plateforme de la déclaration du 31 mars, arrêtés il y a 4 mois et poursuivis pour opposition à l'exercice de l'autorité légitime et complot. En attendant, le parti Yelema et le mouvement Reconstruire avaient appelé aujourd'hui les Maliens à observer 3 minutes de pause en fin de matinée pour exiger leur libération ainsi que celle de tous les prisonniers d'opinion. Sidi Yansané.
4 mois après l'arrestation de leurs 11 collègues, les partis et organisations signataires de la déclaration du 31 mars ne se contentent plus d'exiger la seule libération de leurs camarades. Ils veulent désormais dénoncer l'incarcération de plus en plus généralisée des voix critiques de la transition. Alors que les activités politiques sont de nouveau autorisées depuis le mois de juillet, la plateforme d'opposition ne comprend pas le maintien de leurs cadres en détention, alors que la justice avait déjà décidé de leur libération sous contrôle judiciaire, une décision à laquelle le procureur général avait fait appel. Demain, la cour d'appel de Bamako statuera sur leur sort, mais les opposants veulent désormais mettre la lumière sur ce qu'ils considèrent comme des prisonniers d'opinion, comme le chroniqueur radio Rasbat, l'influenceuse Rose Vichère, ou le militant associatif Clément Dembélé, ou encore l'économiste Étienne Fakaba Sissoko.
C'était un jour de rentrée scolaire au Niger. Enfin, cette rentrée était prévue le 2 octobre, mais elle avait été repoussée par les autorités en raison de graves inondations qui ont fait 339 morts, plus d'un million de sinistrés, selon le dernier bilan officiel. Et au final, ce sont plus de 4,5 millions d'élèves qui ont pu reprendre le chemin de l'école aujourd'hui. Les explications de Magali Lagrange.
La plupart des classes ont pu rouvrir dans les 8 régions du Niger. Seules quelques-unes sont restées fermées localement parce qu'elles n'ont pas encore pu être dégagées, comme à Maradi et Zinder, particulièrement touchées par les inondations. La rentrée avait justement été repoussée parce que des classes étaient soit inondées, soit occupées par des familles sinistrées. À ces difficultés s'ajoutent des problèmes récurrents, classes en paillotte, nombre d'élèves très élevé, plus d'une centaine dans certaines classes, notamment en raison d'un nombre insuffisant d'enseignants. D'après les informations qui nous parviennent, tout s'est bien passé, résume la dynamique des syndicats du secteur de l'éducation et de la formation. Ce regroupement de syndicats a toutefois présenté 2 demandes aux autorités avant la rentrée, le paiement de rappels de salaire pour certains enseignants et le recrutement des enseignants contractuels dans la fonction publique. Plus de 70 000 sont concernés, certains sont contractuels depuis plus de 10 ans. En signe de mécontentement, la dynamique avait appelé ses représentants à ne pas accompagner les autorités lors des cérémonies de rentrée. Des consultations des militants sont aussi prévues cette semaine. Nous voulons que les négociations reprennent avec le gouvernement, explique son porte-parole, Lawali Issoufou, qui attend des propositions concrètes.
Et enfin, l'Afrique du Sud a déposé devant la Cour internationale de justice son dossier de preuve du génocide commis selon elle par Israël à Gaza. Un dossier de plus de 750 pages. C'est la fin de cette édition.